en coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Canal Académie vous propose d'entendre l'intervention au colloque de Madame Jacqueline Lalouette, professeure à l'Université de Paris 13, sur le rôle de la libre pensée dans la marche vers la séparation. Nous écoutons Jacqueline Lalouette.
Dès 1801, alors qu'il n'existait aucune société de libre pensée, ce mot n'existait même pas, il ne sera forgé que durant les années 1840, alors qu'on parlait plus volontiers de philosophe que de libre penseur, des objections, des oppositions s'élevèrent tant contre la Convention de l'an 9 que contre la loi du 18 germinal an 10, objections et oppositions soulevées au nom de ce que nous appelons, nous, maintenant, la libre pensée. Le conseiller Thibaudeau rapporta que, dans ses mémoires sur le consulat, que des caricatures circulaient à propos du concordat et l'une d'elles représentait le premier consul en train de se noyer dans un bénitier dans lequel des évêques l'enfonçaient à l'aide de leurs crosses. L'armée fut particulièrement marquée par cette réprobation contre la Convention de 1801 et la loi du 18 germinal, l'armée du Rhin encore plus que l'armée d'Italie. On trouve également de nombreuses oppositions dans la société civile et particulièrement dans le corps législatif et le tribunat. Et d'ailleurs, pour être sûr que la loi serait votée, Bonaparte, sur la suggestion de Cambacérès, on ne le dit pas assez, Bonaparte procéda au renouvellement du cinquième de leurs membres, comme cela devait se faire en l'an 10, non pas par un tirage au sort, mais en éliminant tous les impies, tous les récalcitrants, tous ceux que nous appellerions des libres penseurs. Furent ainsi exclus Donou, Marie-Joseph Chénier, Isnard, Benjamin Constant et bien d'autres. En 1801, Benjamin Constant écrivit « La religion doit être ignorée du gouvernement comme toutes les autres opinions individuelles. Elle ne peut être une institution politique ou civile. Elle se compose des relations existantes entre un être supérieur et l'homme comme individu. » Ce passage figure dans une édition bien ultérieure de deux chapitres inédits de l'Esprit des religions. De son côté, Destutt de Tracy rédigea un commentaire sur l'esprit des lois dans lequel figurent d'insolents passages sur la religion, bonne à rendre les esprits dociles et soumis au pouvoir politique. Ce livre était alors impubliable en France. Destutt de Tracy le fit parvenir à Jefferson, qui le traduisit, le fit imprimer en 1811 et le livre ne put paraître en France qu'en 1819. Voilà donc deux grands thèmes. La religion doit rester de l'ordre du privé et la religion est la béquille des régimes tyranniques. Ces deux opinions, bonnes à nourrir des thèses séparatistes, anticoncordataires, traversèrent tout le XIXe siècle, confortées et fortifiées par d'autres jugements critiques sur les régimes concordataires qui furent partagés par un nombre grandissant d'adeptes libre-penseurs au fil des décennies. Je ne parlerai ici que des libres-penseurs, mais tout au long du XIXe siècle, il y a eu des séparatistes qui étaient des libéraux, qui étaient des protestants libres et qui étaient, dans certains cas, des catholiques libéraux. Si la Restauration, avec Paul-François Dubois, du Globe, si la Monarchie de Juillet, avec Audry de Puyraveau, avec François-André Isambert, si la Seconde République, avec Isambert encore, Edgar Quinet, Pascal Duprat, Pierre Leroux, ont connu des libres penseurs ardents à demander la suppression du budget des cultes et la séparation de l'Église et de l'État, il fallut attendre le Second Empire, puis les premières décennies de la République triomphante, la fameuse République aux Républicains, pour que la demande séparatiste pût s'exprimer avec une certaine force. Dans un premier temps, je présenterai les personnalités anticoncordataires ainsi que les rythmes, les moments et les modalités de la revendication séparatiste. Dans un second temps, j'étudierai quelques-uns des principaux fondements de cette demande séparatiste. Premièrement, les personnalités, les rythmes, les moments, les modalités. Créée de manière embryonnaire en 1848, autour de deux philosophes kantiens et spiritualistes, tous deux disciples de Victor Cousin, Jules Simon et Jules Barny, la libre pensée institutionnalisée ne survécut pas à l'orientation conservatrice de la Seconde République ni au coup d'État du 2 décembre. Accusée d'avoir pactisé avec le président Parjure, l'Église devint une institution particulièrement honnie et méprisée, mais les libres penseurs ne purent exposer en France leurs convictions, qui étaient d'ailleurs préférentiellement centrées sur la séparation de l'Église et de la famille, sur la séparation de l'Église et de l'école, qu'après l'amnistie de 1859 et à la fin des années 1860, lorsque les libertés publiques furent un peu plus largement accordées. En 1866, un libre-penseur notoire du nom d'André Saturnin Morin, dit Miron, qui avait été sous-commissaire du gouvernement puis sous-préfet sous la Seconde République, publia un ouvrage intitulé « De la séparation du spirituel et du temporel », dans lequel il inclut un projet de loi de séparation du spirituel et du temporel, fort de 11 titres et de 73 articles, qui occupe dans son ouvrage de la page 457 à la page 469. Donc, vous le voyez, un projet assez élaboré, mais produit en dehors de tout cadre parlementaire. En 1867, peu après la bataille de Mantana, Jules Simon condamna au corps législatif l'expédition du général de Failly, parla en faveur de la fin du pouvoir temporel de la papauté et de la séparation de l'Église et de l'État. La doctrine des concordats, dit-il en cette occasion, était déjà caduque en 1516, date de la signature du concordat de Bologne. Il développa de nouveau cette thèse dans La politique radicale, publiée en 1868, année durant laquelle, sous le titre « La morale dans la démocratie », Jules Barny publia un cours qu'il avait professé à Genève en 1864. Cet ouvrage contient quelques pages consacré à la sécularisation, nous dirions aujourd'hui la laïcisation, donc la sécularisation de l'État et à l'entière séparation de l'Église et de l'État. L'année suivante, un autre philosophe libre-penseur, Étienne Vacherot, prit position encore plus fermement dans son ouvrage intitulé « La religion ». La séparation absolue de l'Église et de l'État y était instamment réclamée au nom de l'honneur des principes et de la liberté. Il faut encore citer Ernest Hendley, qui publia en 1869 « La séparation de l'Église et de l'État ». Cette année 1869 vit se dérouler des élections législatives et la campagne électorale fut marquée par l'engagement séparatiste d'un certain nombre de candidats. Gambetta et le célèbre programme de Belleville, c'est-à-dire le cahier des charges qui lui fut présenté par ses électeurs et qu'il accepta, Jules Ferry, Adolphe Guéroux, Jules Vallès, d'autres encore. En 1870, malgré les efforts des blanquistes, l'attente des républicains anticléricaux et séparatistes fut déçue et le court décret de 4 articles pris par la Commune le 3 avril 1871 n'eut qu'une portée toute symbolique, encore très forte dans la mémoire d'une certaine mouvance laïque d'aujourd'hui. Les sociétés de libre-pensée ne purent vraiment se multiplier qu'à partir de 1879. À l'origine, les sociétés locales créées à un rythme assez rapide et en nombre important dans certains départements déchristianisés, depuis longtemps, comme Lyon, étaient surtout des sociétés d'enterrement civil, plus attentives à la vie privée de leurs membres qu'à de grandes questions d'ordre général ou national. La demande de séparation des Églises et de l'État s'exprima davantage au niveau national, mais s'intensifia, y compris dans les sociétés locales, durant le quart de siècle qui sépare la victoire républicaine de la loi de 1905 au fil des années. La séparation des Églises et de l'État appartient au programme de la Fédération française de libre-pensée, fondée en 1890. Elle figure aussi au programme de l'Association nationale des libres-penseurs de France, fondée en 1902, avec deux présidents d'honneur particulièrement prestigieux, Anatole France et Marcelin Berthelot. Il faut dire que tous les libres-penseurs à l'époque n'étaient pas séparatistes. Comme les républicains d'une manière générale, ils se sont divisés en deux grands groupes. Ceux qui pensaient qu'il fallait maintenir le concordat, qu'il serait trop dangereux de rendre sa liberté à l'Église, ceux qui, au contraire, voulaient la séparation. La plupart des libres penseurs étaient séparatistes, mais quelques-uns faisaient très bonne figure dans le camp concordataire, et notamment Paul Bert, membre d'une société de libre-pensée auxerroise et membre de l'Union démocratique de propagande anticléricale. Sans doute parce que la plupart des sociétés de libre-pensée avaient tendance à se replier sur les cérémonies civiles ou à s'occuper davantage des congrégations, à se lancer dans un anticléricalisme qui visait les personnes et les dogmes, certains libre-penseurs ressentirent le besoin de créer des mouvements spécifiquement consacrés à la séparation des églises et de l'État ou à la suppression du budget des cultes. En 1882, fut fondée la Ligue nationale pour la séparation des églises et de l'État, dont le président était Charles Boisset, alors vice-président de la Chambre des députés. Parmi ses membres, assez peu nombreux, la Ligue comptait moins de 1200 personnes, figuraient deux sénateurs inamovibles, Léon Laurent Pichat et Victor Schelser, et une centaine de députés. En 1888, fut envisagée, autour d'Yves Guyot et du docteur Blatin, bien connu pour ses activités maçonniques, la création d'une Ligue pour la suppression du budget des cultes. Les soubresauts causés par l'épisode boulangiste dans la vie politique française détournèrent les énergies vers des combats plus importants, et finalement, cette Ligue ne vit jamais le jour. Ces différentes associations, libre-penseuses ou péri-libre-penseuses, organisaient des conférences pour parler de la séparation dans les petites villes, les bourgs, les campagnes. Par exemple, Boisset se rendit à Chalon-sur-Saône en octobre 1882, et Alexandre Millerand, qui était alors libre-penseur, à Gien en juin 1883. Ces sociétés inscrivaient la séparation à l'ordre du jour de leur congrès. Il faut rappeler que quelques grands congrès universels de la libre-pensée se sont tenus en France et ont compté la séparation dans leur ordre du jour, et notamment le congrès de Paris de 1889, le congrès de Rome de 1904, puis de nouveau un congrès à Paris en 1905. Par ailleurs, dans les activités séparatistes de la libre-pensée, il faut absolument mentionner la grande journée pour la séparation organisée par l'Association nationale des libres-penseurs de France le 17 mai 1903. D'autres moments que ces congrès libre-penseurs étaient des temps forts pour parler de la séparation. Les campagnes électorales des législatives étaient particulièrement importantes pour les libres-penseurs qui aiguillonnaient les députés républicains et les candidats républicains, et les interrogeaient systématiquement sur leurs opinions en matière de régime des cultes. À dire vrai, ils étaient souvent déçus après coup. Ainsi, le 25 octobre 1885, André Saturnin Morin écrivit dans la Libre Pensée Socialiste « Nos candidats admettent le principe de la séparation, mais, quant à la réalisation, ils recourent à des distinctions, à des subtilités. Ils posent des conditions vagues, sans définir clairement en quoi elles consistent, et en définitive, ils n'aboutissent qu'à des ajournements indéfinis. Le nombre des candidats qui s'étaient engagés à voter la séparation était inférieur à 80 en 1885 et inférieur à 200 en 1902. Il convient de remarquer que la droite, qui mettait en avant ces nombres pour dire que la Chambre n'avait pas le droit de discuter de la séparation, et que les républicains séparatistes, qui voulaient contraindre des candidats à s'engager en faveur de la séparation et à œuvrer pour elle au sein du Parlement, s'ils étaient élus, bien sûr, méconnaissaient tous le grand principe électoral français selon lequel tout mandat impératif est nul. Autre moment fort, au sein de la Chambre des députés, la discussion du budget des cultes et le vote de la loi de finances furent systématiquement prétexte à parler de séparation, car durant un quart de siècle, il se trouva chaque année des députés qui, à l'instar d'Audry de Puyraveau en 1832, demandait la suppression du budget des cultes. Ne l'obtenant pas de manière globale au moment de la discussion générale, ils intervenaient dans la discussion pour le vote de chaque chapitre du budget des cultes et argumentaient à propos de tel ou tel article. Leurs adversaires répondaient, et c'était des joutes à n'en plus finir, à propos du concordat, de la séparation, à grand renfort d'arguments juridiques, historiques, philosophiques et théologiques. La discussion de l'année 1882 est particulièrement intéressante. Elle occupe des dizaines de pages dans le compte-rendu des débats parlementaires. 1882, c'est bien sûr l'année du vote de la loi du 28 mars, qui vit paraître de nombreux mandements épiscopaux hostiles à cette législation républicaine. En 1882, il existait déjà une commission dite du Concordat, dont Paul Bert fut le rapporteur, commission qui examinait un certain nombre de propositions de loi qui avaient été déposées, soit pour abroger la loi du 18 Germinal, soit pour modifier les dispositions concordataires. Parmi ces propositions, il y avait celle de Charles Boisset dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y avait également une autre proposition déposée par un député libre-penseur, Jules Roche. Dans cette année 1882, les esprits étaient particulièrement passionnés et il y eut de très vifs échanges, notamment entre Jules Roche et Mgr Frépel, évêque d'Angers et député du Finistère. Il faut dire que dans ces séances du mois de novembre 1882, le président eut beaucoup de mal pour faire régner un peu d'ordre et de courtoisie entre des gens qui n'étaient pas toujours aimables entre eux. Après l'affaire Dreyfus, après le vote de la loi du 1er juillet 1901, dont le titre 3 est consacré aux congrégations, après tous les incidents de l'année 1904 autour des affaires de Mgr Jay et de Mgr Le Nordez, du différend toujours pendant relatif à l'entente préalable entre le nonce et le gouvernement pour la nomination des évêques, autour du voyage du président Loubet à Rome et de la note diplomatique rédigée par le secrétaire d'État Méry Delval, la pression libre-penseuse se fit particulièrement sentir sur le bloc des gauches et sur Combes, dont la libre-pensée disait surveiller la politicaillerie concordataire. À la Chambre, j'en arrive vers la fin de la période, à la Chambre, durant toute la durée des débats, les députés libre-penseurs, comme Maurice Allard, comme Victor de Jante, qui avait rédigé une proposition de loi qui était à l'étude par la commission de la séparation mise en place au mois de juin 1903. Donc Maurice Allard, Victor de Jante, Bouvry, tout au long des débats, essayèrent, comme ils le faisaient d'ailleurs par ailleurs dans la commission, quand ils en étaient membres, ce qui était le cas d'Allard, essayèrent de durcir le projet par des amendements divers et se plaignirent très amèrement qu'on ne prenait jamais en compte leurs amendements alors que l'on prenait systématiquement en compte les amendements des républicains modérés comme ceux d'Alexandre Ribot par hasard, par exemple. Le 3 juillet 1905, jour des explications de vote et du vote de la loi à la Chambre des députés, Maurice Allard, donc libre-penseur, député socialiste du Var, déclara « Messieurs, je considère que cette loi ne répond nullement au desiderata des républicains et des libres-penseurs. La loi de séparation que la Chambre va voter dans quelques instants n'est pas celle que demande le pays, qui veut la séparation intégrale et qui a toujours considéré cette mesure comme devant être une arme de combat contre les religions. Deuxièmement, les fondements de la revendication séparatiste. Ces fondements sont de divers ordres et je vais commencer par ceux qui sont à caractère idéologique et historique. Les allusions à l'origine du Concordat sont assez fréquentes. Ainsi, le 1er juin 1886, lors de la discussion sur la prise en considération de la proposition de loi de Plantôt et de Michelin, deux députés de l'extrême-gauche, proposition de loi sur l'abrogation de la loi du 18 Germinal en 10, Michelin présenta le Concordat comme l'œuvre de l'homme funeste qui a détruit la Révolution française, qui a détruit son œuvre et qui a essayé de rétablir la monarchie à son profit. Le 9 novembre 1881, l'anticlérical présenta le Concordat comme une personne, une œuvre personnifiée nommée Basile César Concordat. Basile César. En juillet 1902, le bulletin mensuel de la Fédération française de la libre-pensée parla du mariage de déraison imposé par Napoléon à la carpe Église et au lapin État. Les reproches adressés à Napoléon Ier l'étaient aussi à son neveu et au prélat qui avait célébré des Tédéums en l'honneur du 2 décembre. Le 12 novembre 1882, Jules Roche déclara à la Chambre « Les prélats bénissent leur parjure, ils chantent des tédéum et on leur paie leur tédéum. » Peu après, Madier de Mongeau enfonça le clou. « L'Église, dit-il, a béni ceux qui lui ont présenté les lambeaux ensanglantés de la Constitution de 1848. » Des griefs de même nature ressortent encore à propos du 24 mai 1873 et du 16 mai 1877, deux moments dramatiques dans l'histoire de la jeune Troisième République qui donnèrent à Jules Stègue, à l'occasion de son rapport sur la proposition de Charles Boisset, le 30 janvier 1882, et à Paul Bert, dans son célèbre rapport du 31 mai 1883, l'occasion de dénoncer la complicité entre l'Église et les forces rétrogrades du pays. De même est mise en avant l'attitude du clergé qui s'immisce, dit-on, dans les élections législatives. Bref, les républicains libre-penseurs et séparatistes demandent systématiquement pourquoi la République tolère l'existence de 40 000 chaires occupées par des adversaires que de surcroît elle paye sans disposer de véritables moyens pour les sanctionner en cas de nécessité. Car, dit la libre-pensée socialiste en septembre 1885, les appels comme d'abus et les suspensions de traitement sont des moyens platoniques. Le clergé français est accusé non seulement de ne pas aimer la République, mais en outre de ne pas aimer la France, de ne pas avoir de patrie. Le 14 novembre 1882, Jules Roche ayant désigné le ministre de l'Intérieur et des Cultes, il s'agissait alors de Falière, comme le chef de Mgr Frépel, celui-ci répondit « Mon chef, allons donc, je n'ai qu'un pape, je n'ai pas d'autre chef que le pape. » Il eut beau préciser après « dans l'exercice de mes fonctions », sa remarque n'était pas tombée dans l'oreille d'un sourd et Germain Casse lui lança « Allez trouver le pape pour vous faire payer ». Et Clémenceau ajouta que Mgr Frépel savait bien reconnaître la République comme son banquier. Le lendemain, Jules Roche présenta les prêtres comme une armée de rebelles contre la République, des hommes qui ne reconnaissent pour patrie que la Rome du Vatican, pour loi que le syllabus, pour chef que le pape. Le syllabus, le grand mot, était lâché. Les accusations d'obscurantisme et d'atteinte à la marche de la liberté, de la raison, du progrès, reposaient encore sur d'autres actes romains. Le 6 novembre 1890, Albert Lecomte, député libre-penseur de l'Indre, parla en faveur de la suppression des crédits pour l'ambassade près le Saint-Siège, qui accompagne en général la demande de suppression du budget des cultes, et il fonda sa revendication sur l'obscurantisme de Rome. Après avoir rappelé les mœurs des Borgia, il en arriva aux canonisations et aux béatifications, véritables insultes aux habitudes modernes et plus spécialement à celles de Benoît Labre, cet homme qui, dit-il, avait laissé son corps se transformer en champ de poux et que l'Église portait sur ses autels à une époque où l'hygiène était l'un des objectifs de l'éducation moderne. La papauté, avec ses vieilles traditions, n'est plus en harmonie avec les progrès de la science et du bien-être. Les autres fondements sont d'ordre philosophique et reposent notamment sur la liberté de conscience. Liberté de conscience qui est un problème moral et philosophique tout à fait central tout au long du XIXe siècle, qui pose une question d'interprétation, puisque pour certains, la liberté de conscience correspond au fort interne et que pour d'autres, elle ne veut strictement rien dire si elle ne s'accompagne pas du fort externe, de la liberté du fort externe, c'est-à-dire de l'expression publique des cultes. Et il y a eu tout au long du XIXe siècle des atteintes effectivement constantes à la liberté de conscience, des cultes non organisés, des membres des cultes non organisés par l'État et même dans certains cas des cultes organisés par l'État mais minoritaires. Je n'ai pas le temps d'expliquer ceci. Alors, il faut dire que directement en liaison avec la liberté de conscience se trouve la question du budget des cultes qui est vu comme une atteinte à la liberté de conscience alors même que les autres problèmes relatifs à la liberté de conscience ont quand même été très largement réglés dans la France de la Troisième République, d'une part par les lois de laïcisation, d'autre part par les lois sur les libertés publiques, puisque les Français ont conquis la liberté de la presse, une grande liberté en matière de réunion, et qu'ils conquerront en 1901 la liberté le droit de s'associer librement. Mais pour les anticléricaux séparatistes, il reste une atteinte à la liberté de conscience qui est le budget des cultes, puisque le budget des cultes fonctionne grâce aux impôts de tous les Français, qu'ils soient croyants ou qu'ils soient incroyants. Bon, j'avais toute une partie à développer sur le budget des cultes et la manière dont les libres penseurs les épluchent. Je ne le ferai pas. Donc, mon hypothèse, et c'est ce que j'ai développé en conclusion du livre qui va bientôt sortir sur la séparation, c'est que si la loi de 1905 est effectivement une loi qui fonctionne de manière libérale, qui a fonctionné, qui a appris, je dirais, si une loi peut apprendre quelque chose, a fonctionné de manière libérale au fil des années et des décennies, telle en outre qu'elle a été transformée par les lois de 1907, 1908, 1924, etc. Je pense que l'on s'aveuglerait étrangement en ne présentant la loi de 1905 que comme une loi libérale, comme une loi de liberté. Moi, je suis persuadée qu'une large part du camp républicain, à l'exclusion des républicains modérés, bien évidemment, large part du camp républicain dans laquelle je range Jaurès et dans laquelle je range Briand et dans laquelle je range Pressensé, je suis persuadée, je n'ai pas le temps de vous lire des textes ici, qu'ils ont eu le sentiment de faire à l'Église un cadeau empoisonné et qu'ils ont pu se permettre des déclarations de liberté de conscience, des déclarations de tolérance à moindre frais, puisque dans leur idée, la liberté devait tuer l'Église. Je renvoie à certaines déclarations de Briand, à certaines déclarations d'Anatole France. Je renvoie également au célèbre discours de Viviani en 1906. Nous avons éteint dans le ciel des lumières qu'on ne rallumera plus, etc. etc. Ma question est de savoir quelle a été ma question de conclusion, je veux dire, est de savoir quel a été le rôle de la libre pensée finalement dans la marche à la séparation. Est-ce qu'elle a été une mouche du coche qui a hérité des républicains plus qu'elle ne les a guidés? Est-ce qu'elle a été un éclaireur efficace qui a ouvert une voie? Je pense qu'il y a un petit peu des deux dans le comportement des libres penseurs. Des hommes comme Boisset, Roche, Allard, ultérieurement, ont effectivement pu gêner les républicains libres penseurs plus raisonnables. Je pense malgré tout que leur insistance à discuter chaque année lors de la loi de finances, à déposer des propositions de loi, à organiser des conférences, à publier une presse qui parle de séparation n'a pas été sans incidence. Et il est assez paradoxal d'une certaine manière, ce sera le dernier mot, que si le repenser, qui je crois a joué un rôle important dans la marche à la séparation, a été finalement la part de la société politique la plus mécontente de cette loi, puisque ce n'a pas été la loi qu'elle voulait et qu'elle a vécu le dernier jour de l'année 1905 en espérant que très vite elle verrait une révision de cette loi qui la mécontentait si fort.